Trizac.
Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez
du Trizac.
Bon, ben là, on le sait, là, comme prévu, là, c'est la rentrée, le retour à l'école lundi. Puis, selon le collectif COVID Stop, c'est la recette d'une catastrophe annoncée. On l'annonce ce midi. On n'est pas les seuls, d'ailleurs. Avec nous, elle est coordonnatrice scientifique du collectif COVID Stop, Nancy Delagrave, qui revient à l'émission. Nancy, bonjour.
Bonjour Benoît.
Bonjour, on va faire de vous une chroniqueur bientôt là.
Très bien.
Alors, d'abord, parlons de la pétition, puis on écoutera un extrait de l'entrevue que M. Roberge a accordé à Philippe Vincent Foisy ce matin. Mais vous lancez une pétition. Expliquez-nous à quel sujet.
Donc, on lance une pétition pour le report des classes en présence. On a des médecins qui sont membres du collectif qui ont travaillé en zone COVID, que ce soit dans des hôpitaux pédiatriques ou pour adultes. Et ils nous annoncent que la situation, elle est critique, que le personnel est extrêmement découragé. Ils ont besoin d'un plan. Ils ont besoin de voir la lumière au bout du tunnel. Et ils n'entendent rien du plan qui est en place qui les rassure.
Mais là, d'abord, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour lancer une pétition là, sur le retour à l'école lundi?
Écoutez, on l'a fait quand ça a été annoncé qu'il allait avoir retour en classe. À vrai dire, et là, on avait de l'information de députés, on nous disait que ça serait retardé. Mais donc, ça a été décidé et on a lancé une pétition au mois de décembre qui a été extrêmement populaire sur les tests rapides. On a eu plus de 20 000 signatures. Donc là, on s'est dit au moins les gens qui ne sont pas d'accord, si on ne réussit pas notre objectif, ils vont être entendus. Mais aussi, l'important, c'est qu'on veut proposer des solutions. Aux États-Unis, il y a eu des mouvements dans les universités, dans les écoles, et les parents, les élèves ont construit des boîtes de Corsi Rosenthal, qui sont comme un purificateur qu'on peut faire avec des matériaux qu'on achète en quincaillerie. Mmh. Et ils peuvent réduire les risques de 90%.
Ben voyons.
Je te jure. il en faut deux pour classe, ça coûterait 272 $ par classe.
OK. Une autre question avant d'écouter le ministre Roberge. Les pédiatres, Nancy, demandent un retour à l'école. Là, est-ce qu'il faut choisir entre la santé mentale et la santé physique?
Nous, on a une psychologue dans le groupe qui a un doctorat en psychologie et elle pense que c'est un faux dilemme, c'est une fausse dichotomie. Il y a beaucoup de parents dans le groupe et ce qu'on entend, c'est que les enfants, surtout les adolescents, ne se sentent pas en sécurité à l'école et ils ont peur. Ils ont peur de ramener le virus à la maison. Ils ont peur que leurs parents l'attrapent. Des fois, c'est qu'ils l'attrapent à nouveau. Et des fois, leurs parents ne sont pas encore guéris. Donc, ils ont beaucoup d'anxiété et les parents aussi. Mmh. Et ils trouvent pas ça si cool, l'école, en temps de pandémie. Là. Mmh.
On écoute le ministre Jean-François Roberge qui a accordé une entrevue à Philippe-Vincent Foisy ce matin. Puis on revient avec Nancy Delagrave.
La santé publique ont mandaté un comité d'experts, je ne sais plus si c'est 12 ou 15 experts indépendants, pour faire le tour de cette question-là, les conclusions du rapport. Ce que disent ces experts indépendants, c'est que ce qu'il faut faire, c'est pas tant brasser l'air ou tenter de filtrer l'air, c'est qu'il faut sortir l'air. Quand on dit aérer...
Comme un échangeur d'air.
Exactement, un échangeur d'air. Toute technique qui permet de sortir l'air vicié et faire entrer l'air frais de l'extérieur, c'est ça qui est à privilégier. Ce qu'on appelle les purificateurs d'air, ce qui est fait, c'est que ça passe l'air intérieur. Et ce que disent les experts, c'est que ça a tendance à maintenir en suspension des gouttelettes et des aérosols parce que ça brasse l'air. Alors, plutôt que ce qu'on doit faire, c'est sortir l'air et faire entrer de l'air frais de l'extérieur.
Alors, est-ce qu'on le fait? Là, on dit qu'on a mis 350 échangeurs d'air dans les écoles au Québec.
Oui, sur 40 000 classes. Alors, une goutte d'eau dans l'océan. Il dit, le ministre Roberge, que un purificateur d'air, ça fait brasser l'air. À mon avis, il est extrêmement mêlé. Ça fait pas plus brasser l'air qu'un échangeur d'air. Ça ne fait pas plus brasser l'air qu'une fenêtre ouverte. ce qu'ils demandent présentement, parce qu'il y a beaucoup de classes pour lesquelles il n'y a pas de ventilation mécanique. C'est 58% des classes au Québec qui n'y a pas de ventilation mécanique.
Donc, il faut ouvrir les fenêtres.
Il faut ouvrir les fenêtres, ça brasse l'air. Mm. Et ce que, dans le fond, les purificateurs HEPA font, qui sont recommandés dans toutes les classes, fortement recommandés par les CDC américains, c'est qu'ils retiennent les particules infectieuses exactement comme le masque, les masques N95 ou chirurgicaux font. C'est le même matériau qui filtre dans le purificateur HEPA que dans les masques. Donc, il retient les particules infectieuses et l'air qui, à la sortie, est 99,97% exempt de ces particules infectieuses.
OK, c'est pas la première fois. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne l'a pas fait? On avait le temps là, d'en installer. Des installateurs, des purificateurs d'air, là, t'as pas besoin de toute une canalisation de ventilation comme un échangeur d'air. C'est bien plus simple à installer.
C'est beaucoup plus simple à installer, ça se fait tout de suite et on pourrait avoir une journée de corvée puis qu'ils soient installés dans toutes les écoles en faisant les boîtes de Corsi Rosenthal. Aussi, ce que le comité d'experts ne tient pas compte, c'est que il y a beaucoup de problèmes à amener de l'air sec dans une classe. Premièrement, c'est pas bon pour le système immunitaire parce que quand c'est sec, on a une défense immunitaire qui est avec les cils qui vibrent. Et si le mucus est sec, ça ne fonctionne pas. Mmh. Et aussi, quand l'air est sec, c'est que les aérosols, ils sont plus petits et ils demeurent en suspension plus longtemps et s'inactivent moins vite. Donc, on a vu énormément de super éclosions, d'événements super propagateurs dans des endroits où est-ce qu'on abat les animaux pour faire de la viande. Et c'est justement les conditions. C'est des conditions de température de 10 à 15 degrés Celsius et c'est un environnement sec. Donc, en mettant des échangeurs d'air, c'est ce qu'il va faire. Il va rendre l'air sec dans les classes.
Mmh. Là, le N95, oui ou non? Est-ce que c'est nécessaire? Parce que là, on encore une fois, la Santé publique du Québec dit c'est pas recommandé.
Oui, et il y a plusieurs chroniqueurs et journalistes scientifiques qui n'en reviennent pas. Une est Roxane Kemzi, qui écrit pour The Wired puis The Atlantic. Donc, le masque N95, lui, il est fait pour faire un show, pour sceller au visage. Et l'ajustement, c'est le facteur le plus important. Un trou, un jour, par lequel l'air peut entrer de 1% de la surface du masque, la surface en trois dimensions, ça baisse l'efficacité de 50%. Mmh. Donc, c'est pour ça que les masques chirurgicaux sont efficaces à 50%, alors que les N95 sont efficaces de 95%, mais il faut comprendre que le 95%, c'est mesuré à la taille de particules où c'est le moins efficace, c'est-à-dire 0,3 microns.
Mais là, on dit que c'est pas utile. En classe, là, les profs pourront pas parler aux élèves, pourront pas. Tu sais, on exclut l'utilisation première d'un masque, c'est de se protéger contre le virus. Puis là, on applique d'autres facteurs là pour justifier le fait qu'on les recommande pas.
Exactement. Puis en réalité, c'est qu'on s'est pas vraiment forcé la tête parce que le KN95 projette aussi bien la voix qu'un masque chirurgical. Il y a absolument aucune différence. Il est très 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 confortable. Donc.
C'est quoi le problème?
Je pense que le problème est l'indépendance scientifique et il y a aussi des scientifiques à l'INSPQ qui sont muselés. On l'entend par les bandes dans notre groupe.
OK. Le docteur Boileau, là, est-ce que quand il parle de la situation de l'air dans les classes, c'est sécuritaire? M. Robert, je répète la même affaire. On détermine pas le sens de sécuritaire ici.
Là. Non, écoutez... J'ai peu de mots là. Je suis bouche bée quand j'entends ça parce que on parle de sécurité en temps de pandémie là. Et la sécurité en temps de pandémie, ça veut dire qu'on filtre les virus respiratoires, la charge virale dans l'air, la même façon que pour le choléra, on a filtré l'eau, on l'a purifiée.
OK. Là, vous avez dit qu'il y a des chercheurs, des experts scientifiques qui sont muselés. D'où vous tenez ça, Nancy? D'où ça vient, ça?
On nous écrit.
Qui vous écrit?
Des gens qui travaillent à l'UNISPQ. Dans tout le système de santé et dans le système de l'éducation, les gens sont extrêmement muselés. Donc, on reçoit beaucoup d'informations de personnes qui travaillent dans des hôpitaux qui nous disent, par exemple, que les circuits qui existaient avant, c'est-à-dire ici, c'est des patients COVID, c'est une zone chaude, on s'arrange pour que l'air ne voyage pas d'une zone à l'autre, ben là, les circuits ont été démantelés et c'est depuis ce temps-là que les infections nosocomiales ont explosé dans les hôpitaux.
Puis s'il y a des scientifiques, par exemple l'INESPQ, qui sont pas d'accord avec ce qu'on annonce en point de presse, on ne les entend pas.
Oui.
OK. Avant qu'on se quitte, Nancy Lagrave, qu'est-ce que vous proposez là pour ramener, parce qu'il faut ramener les enfants à l'école.
Hein? Oui. On est d'accord que ça serait difficile pour les parents, pour les enfants d'avoir tous des masques qui protègent bien, c'est-à-dire des KN95. Mais il faudrait au moins laisser les enfants que les parents leur en ont donné de pouvoir le faire. On a aussi une solution avec trois élastiques qui est très, très, très simple, qui permet de sceller un masque chirurgical, donc qui augmente son efficacité et la rend comparable à un masque N95. Ce qu'on demande aussi, c'est qu'il y ait du traçage. Là, ils veulent même plus, dans le fond, répertorier les cas. On demande aussi que la période d'isolement soit de 10 jours, comme Michael Mina de Harvard le recommande. C'est montré que après 5 jours, il y a une proportion quand même au moins 25% des gens qui sont encore contagieux. Là, c'est ce qui me vient à la tête, mais le plus important, c'est aussi qu'on tienne compte de la COVID longue. Et la COVID longue affecte aussi les enfants, comme le syndrome inflammatoire multisystémique. D'ailleurs, il y a un article dans la presse là-dessus.
Oui, la presse, et on va finir avec ça. Hospitalisation quotidienne chez les moins de 10 ans, la progression du nombre d'admissions quotidiennes dans les hôpitaux québécois chez les 0 à 9 ans. Expliquez-moi le diagramme que j'ai devant moi, là. Expliquez-moi pourquoi ça grimpe comme ça en janvier 2022.
C'est que là, on laisse les infections courir. J'ai l'impression qu'on se dit qu'une fois que les personnes, les enfants vont avoir attrapé la COVID, ben ils la réattraperont pas. Mais nous, on a plein d'exemples d'enfants qui l'ont attrapé 2 à 3 fois. Donc là, on est présentement à 13,9 hospitalisations quotidiennes chez les moins de 10 ans. Et le plus haut que c'est arrivé, c'était moins que 2 dans toute la crise, et c'était en janvier 2021. Donc là, c'est x7.
Puis on se pose pas trop de questions sur la COVID longue non plus par la suite.
Non, puis Omicron, on n'a aucune donnée sur la COVID longue. Il n'y a rien qui laisse supposer que ça va être moindre. Et il y a aussi beaucoup plus de syndromes inflammatoires multisystémiques chez les enfants. Il y a eu plusieurs hospitalisations dans les dernières semaines.
Alors, cette pétition de COVID Stop là, qui demande de repousser la rentrée scolaire, on peut la signer sur votre site?
Oui, puis elle est dans change.org. Donc, présentement, on a 1300 signatures, puis ça serait bien d'en avoir, plusieurs dizaines de milliers. Puis on invite aussi les adolescents à la signer, les gens qui sont d'accord avec nous.
Très bien. Nancy Delagrave, coordonnatrice scientifique du collectif COVID Stop. Merci, Nancy. À la prochaine.
Merci, Benoît.